France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et sociologue aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui, notre invitée, philosophe et écrivaine, a choisi d'évoquer la référence incontournable pour tout étudiant de philosophie. Le passage obligé pour tout amateur de la discipline, celui qui en a impulsé le tournant moderne avec ses doutes à la première personne, celui qui a donné envie de méditer et de penser par soi-même à quiconque l'a lu, Descartes et ses méditations métaphysiques.
C'est grâce au libraire de Saint-Rémy-de-Provence que nous avons fait la connaissance d'un de ses clients, Jean-Noé le berger.
Vous avez le temps de lire quand vous gardez les moutons?
Oui, oh, pour ça, c'est pas le temps qui nous manque, nous. Et lire vous... et méditer surtout.
Méditer, c'est ça. Méditer. Vous êtes berger dans la Croix et je suppose que l'été vous faites les transhumances dans les Alpes. Et
dans vous... le Vercors, exactement.
Ouais. Vous restez combien de mois là-haut?
4 mois. Là, c'est l'autonomie complète. Ouais.
Et vous avez comme sujet d'intérêt, qu'est-ce que c'est?
Tout ce qui peut me donner quelque chose à passer, à me mettre sur la voie.
Vous aimez la sagesse de Montaigne qui est un peu sceptique comme ça?
Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je préfère franchement le doute de Descartes.
Ah oui.
Ouais.
Et vous pensez qu'aujourd'hui, on peut avoir une conception du monde, on peut comprendre le monde dans lequel on vit?
C'est toujours très difficile. Il n'y a que les personnes qui vraiment ont un idéal, une foi, que cela, ils peuvent avoir une conception nette de leur univers. Mais celui qui veut vraiment trouver, il reste un peu dans l'incertitude. Disons que j'ai horreur d'une vérité toute faite, comme on donne. Il faut, comme Descartes dit, il faut la concevoir par soi-même.
Bonjour Mazarine Pangeot.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes philosophe et écrivaine, professeur de philosophie à Sciences Po Bordeaux, chercheur au Centre Émile Durkheim. De vous vient de paraître De l'indifférence à la différence aux éditions PUF, dans lequel vous citez Descartes, mais vous y citez aussi Kant, Spinoza, Lévinas. Alors pourquoi avoir choisi Descartes aujourd'hui?
Descartes parce que c'est toujours à lui que je reviens. Ça reste la source inépuisable de toute forme de questionnement, de pensée, d'assises aussi. Voilà, c'est l'auteur de ma vie.
Ah, carrément, l'auteur de votre vie.
Ah oui, c'est vraiment l'auteur de ma vie. J'ai consacré ma thèse à Descartes, mais...
Oui, donc c'est un sacré morceau de sa vie déjà, en termes de,
oui,
de temps et de d'approfondissement de la pensée.
Absolument. Et en même temps, c'était pas exactement dans une perspective d'histoire de la philosophie, c'était vraiment dans une perspective plus spéculative, où j'essayais de le faire dialoguer avec des auteurs. Enfin, j'essayais... Disons que les auteurs ont tous plus ou moins dialogué déjà avec Descartes, et donc il s'agissait de réentendre un petit peu ce dialogue, et notamment avec des lectures contemporaines. Et donc oui, Descartes a été au cœur de mon travail et c'est un texte qui est inépuisable. En tout cas, les méditations métaphysiques, c'est un texte absolument inépuisable. C'est-à-dire que je peux le relire et à nouveau être subjugué. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'épuise pas. Et c'est ça la clé des grands textes de philosophie. Ça n'est pas le seul, évidemment. C'est qu'on peut les relire incessamment. Et c'est toujours aussi vivant pour la pensée.
Que pensez-vous de ce que dit ce berger dans cet archive de 1967 qui veut revenir à Descartes? Descartes plutôt que Montaigne, justement pour penser par soi-même. Est-ce que vous pensez que si on veut présenter simplement les méditations métaphysiques à quelqu'un qui ne l'aurait pas encore lu ou qui en aurait peur, il suffirait de dire ça?
Déjà, je trouve que l'archive, elle est extraordinaire. Ce berger qui part 4 mois seul... Et il emporte avec lui Descartes. Je le comprends. Cette question du questionnaire de Proust qu'on pose à chaque fois, avec quelle œuvre partiriez-vous sur une île déserte? Moi, je pense que je répondrais comme lui, Descartes. Parce qu'il nous accompagne dans une pensée alors méthodique, plus que Montaigne pour le coup, ce qui, enfin, c'est pas forcément un défaut, hein, parce que c'est aussi ce qui fait le charme des essais. Mais avec Descartes, on suit quelque chose qui est d'une radicalité. Moi, c'est ça que j'aime chez lui, d'une radicalité telle qu'on est obligé de faire le chemin, c'est un voyage pour la pensée, c'est un voyage expérimental, existentiel, c'est à proprement parler ce qu'on appelle en fait une méditation, et c'est ce qu'il disait le berger, qui voulait méditer, c'est ça méditer, c'est-à-dire véritablement devenir l'objet de sa propre pensée et n'être plus qu'un sujet-objet, être dans cette sorte d'indifférenciation à un moment donné. Et c'est une expérience de pensée qui est assez extraordinaire, parce que c'est pas juste une expérience de pensée, c'est une expérience totale.
Vous dites que vous y revenez sans cesse, mais au bout d'un moment, vous le connaissez par cœur, alors ce texte, enfin par cœur. Qu'est-ce qui vous interroge encore? Est-ce que vous vous en servez encore pour vos recherches parce que vous avez besoin d'une assise, comme vous disiez, ou est-ce que quand même, il y a des problèmes qui résistent dans ce texte et vous dites, comment il l'a formulé? Parce que l'idée des méditations métaphysiques, pour le présenter assez simplement, c'est que Descartes entend redonner au sujet, ou donner au sujet en tout cas, le pouvoir de connaître clairement et distinctement, de discriminer le vrai du faux, on va dire. Bon, bah, une fois qu'on a lu sa méthode, d'une certaine manière, pourquoi y revenir? Qu'est-ce qui résiste?
Parce que encore une fois, c'est pas une méthode extérieure, c'est pas quelque chose qu'on applique mécaniquement, ni un mode d'emploi. C'est quelque chose qui, pour aboutir à un résultat, doit être vécu de l'intérieur. Sinon, ça marche pas. En fait, c'est une expérience. Si on ne la fait pas, ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est génial aussi à enseigner à des étudiants en philosophie, c'est qu'ils sont obligés de jouer le jeu. Sinon, ils passent à côté du texte. Et c'est un jeu assez dangereux en réalité. On le verra peut-être tout à l'heure avec les textes, mais c'est un jeu dangereux parce que pour aller jusqu'au bout du doute, il faut vraiment mettre en question l'entièreté du réel et donc déréaliser tout ce qui nous entoure, y compris soi-même, et donc toucher du doigt quelque chose quand même qui est de l'ordre d'une forme de folie, de perte totale des repères. Et donc, c'est une expérience dangereuse, mais c'est une expérience à côté de laquelle on ne devrait pas pouvoir passer si on veut faire de la philosophie. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on y retourne sans cesse? D'abord, c'est quand même un texte très riche. Il parle de beaucoup de choses, pas uniquement du critère de vérité et du fondement du critère de vérité.
Mais il parle beaucoup de Dieu, sinon.
Alors, il parle du sujet. Mais sans jamais énoncer le terme de sujet, le terme de sujet est un peu anachronique par rapport à Descartes, mais il parle d'un jeu, J-E, mais d'un jeu qui est tellement multiforme qu'il est très difficile en réalité de savoir quel est ce jeu dont il parle, même s'il va en donner
plusieurs
définitions.
Même quand lui dit jeu d'ailleurs.
Oui, ouais, absolument, il va lui-même en donner plusieurs définitions qui ne sont pas les mêmes. Donc déjà, il introduit une forme de tension entre des définitions différentes et qui vont autoriser des interprétations très différentes de Descartes, puisque Descartes va un peu sortir la philosophie de la crise dans laquelle elle se trouve à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, et après lui, tout le monde va être cartésien, c'est-à-dire cartésien ou anti-cartésien, mais tout le monde va se référer à Descartes. Ce qui fait que, d'une certaine façon, dans sa philosophie, il y a toutes les philosophies possibles du XVIIe siècle. Spinoza sera cartésien, et puis il ne le sera plus. Mais il y a quand même une base d'abord cartésienne. Leibniz, Hobbes, d'une certaine manière, il dialogue avec Descartes. Tout le monde va devoir passer par Descartes.
Et même nous, encore aujourd'hui, on est cartésien.
Moi, il me semble qu'on est cartésien. Bon, après...
Vous êtes cartésienne,
je suis cartésienne, mais ça dépend de quel Descartes on parle. Justement, parce qu'il autorise énormément d'interprétations. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'encore aujourd'hui, je pense que plusieurs cartésiens pourraient se disputer sur l'interprétation à donner de tel ou tel texte. C'est là où, encore une fois, où il est... D'une richesse infinie, c'est qu'on pourrait avoir des versions tout à fait différentes du Descartes que l'on aime.
Est-ce que vous vous souvenez, Mazarine Pinjot, de la première fois que vous avez découvert ce texte des méditations métaphysiques de Descartes? Vous parliez de l'importance, même de peut-être du plaisir, en fait, de découvrir les méditations métaphysiques grâce à un prof en cours, à enseigner. Est-ce que vous avez eu cette chance-là, ou est-ce que, en fait, vous avez découvert Descartes par vous-même parce que, bon, vous étiez en train de travailler un auteur qui le citait? Et bon, à un moment donné, quand on fait de la philo, quand on passe l'agrégation, Descartes, ça devient un petit peu incontournable.
Alors, je n'ai pas eu de cours à proprement parler sur ce texte-là. J'ai eu des cours sur Descartes, Bessade, je me souviens, à Paris 4.
Qui d'ailleurs fait la présentation du Garnier Flammarion. Ouais,
Alors, c'est lui ou c'est sa femme?
Parce que Michel et Jean-Marie,
ouais, voilà, tous les deux.
Le couple.
Et donc, j'ai suivi un certain nombre de cours sur Descartes, mais des cours magistraux, jamais sur les méditations à proprement parler. J'ai pas eu de lecture suivie ou de séminaire, de texte. Moi, je l'ai enseigné. J'ai adoré enseigner ce texte parce que c'était magique, c'était fabuleux, quoi. Mais mais en tant qu'élève, je n'ai pas reçu de cours sur les méditations. En revanche, à l'agrégation, je me souviens très bien, on avait un... Bon, le thème général, c'était la liberté. Et moi, j'avais fait un peu l'impasse sur Descartes, en réalité. Et le sujet qui était tombé, c'était, je crois, la liberté peut-elle avoir des degrés ? Donc c'est vraiment le sujet cartésien par excellence. Et je crois avoir fait une dissertation sans citer une seule fois Descartes. Ce qui m'a valu une très mauvaise
voilà,
note.
Voilà, c'est ça, je vais vous poser la question.
Bon, je l'ai quand même eu, ouf. Mais ça a été ma pire note quoi, de toutes les épreuves. Et après ça, je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté de ça ? Comment c'est possible ? Alors je ne sais pas si c'est par esprit de revanche ou... Que par ailleurs, je suis rentrée dans Descartes aussi parce que je continuais à faire de la philosophie, à m'intéresser à des questions que Descartes avait lui-même travaillées. Mais à un moment donné, j'y suis allée de manière absolue, quoi, totale. J'ai commencé à lire Descartes, tout Descartes, et peut-être quand même en lien avec cette espèce de petite morsure comme ça de d'orgueil qui était lié à mon échec.
Pourquoi ai-je fait l'impasse sur Descartes?
Non, c'était dingue. Et j'avais quand même réussi à le contourner, quoi. C'était fou. Mais bon, voilà, ça c'est un peu anecdotique, mais il n'empêche que lorsque je l'ai rencontré, mais je ne me souviens pas d'un moment spécifique d'une rencontre du texte.
Une sorte d'épiphanie.
Non, je ne me souviens pas de ce moment-là. Bon, après, j'ai une mémoire épouvantable, donc peut-être que c'est juste une manière de, je ne sais pas, d'oubli volontaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'une fois que j'ai lu ce texte, Je l'ai jamais lâché, quoi. J'ai toujours relu, il m'a toujours accompagné.
Vous avez dit, Mazarine Pinjot, que vous posiez des questions et que Descartes vous semblait incontournable pour ces questions-là. C'était quoi les questions que vous posiez ? Parce que parfois, on rencontre un texte qui vient comme nous découvrir la question qui nous tenait depuis le début, sans qu'on en ait vraiment conscience, sans qu'on se la formule. Or là, vous aviez déjà en tête quelque chose peut-être sur l'identité, sur le sujet, sur l'ego, sur le jeu J.E.
Oui. Alors, c'est difficile hein, de savoir quelles sont nos questions. On les découvre toujours a posteriori, en réalité.
Et qui traversent en fait tout ce qu'on travaille.
Absolument. C'est ça l'intérêt de la recherche. Hein, c'est que finalement, les questions qu'on se pose apparaissent à la fin, hein, plutôt qu'au début. Mais bon, on est quand même mu par quelque chose qu'on a du mal à discerner. Mais bon, c'est comme ça. Et je pense que il y a plusieurs choses hein, qui m'ont mené à Descartes, à cet amour du texte cartésien. Il y a... D'abord, quand même, une certaine, je dirais, malgré tout, un caractère du philosophe. Quelque chose d'assez héroïque, comme ça, très courageux, très, très joueur aussi. Enfin, il y a quelque chose dans le style qui m'a plu. Bon, ça, c'est pas l'aspect philosophique, mais c'est quand même important, il me semble.
Ce qu'on ressent pas trop, parfois, dans les méditations métaphysiques, quand il se décrit en robe de chambre devant son poêle.
Oui, je sais que c'est pas le moment où
je sais que le spécialiste de Descartes me rétorque toujours qu'il n'est pas toujours en chaussons dans sa robe de
non,
chambre,
au mais qu'au contraire, c'était un bretteur, ouais. C'était un aventurier. En fait, c'est un vrai aventurier, donc il a quelque chose comme ça de très romanesque. Bon, ça, disons que c'est quelque chose déjà qui donnait un bon a priori. Et ensuite, je pense que cette philosophie à la première personne du singulier est quand même assez étonnante. Après tout, c'est relativement rare des philosophies qui s'énoncent en première personne. Et donc d'emblée, c'est étonnant. Mais qui est ce jeu, quoi ? Étant entendu que très rapidement, il met de côté le fait que ce soit un jeu purement autobiographique. Enfin, en tout cas, c'est pas René Descartes en tant que tel, sinon ça parlerait à personne. Enfin, en tout cas, on ne pourrait pas investir chacun d'entre nous ce jeu lorsqu'on le lit. Et c'est vrai que, étant par ailleurs très attiré par les récits de soi et le genre récit de soi en littérature et puis aussi même dans les questionnements philosophiques hein, après tout Judith Butler a bien écrit un essai qui s'appelle Le récit de soi. Je trouvais que cette forme de récit de soi était à la fois absolument singulière et en même temps contenait en elle toute la quintessence de ce que c'était que la philosophie et peut-être aussi la littérature puisqu'à travers une singularité total, on atteignait à ce qui relève de l'universel. Et donc, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir réussi, non pas par la démonstration, mais par la performativité, par la performance, par l'écriture elle-même. C'est extraordinaire d'avoir montré que c'est par le jeu, par l'absolue singularité qu'on arrive à cet universel.
Donc c'est vraiment la question du jeu qui vous a porté, Mazarine.
Je pense qu'au début, c'est ça qui m'a conduite à aimer Descartes. Et ensuite, ce qu'il y a de très étonnant chez lui, c'est que on est dans une rationalité évidemment très
cartésienne, comme vous dirait.
Enfin, très cartésienne, très forte, très. Et en même temps, on frôle l'irrationnel au moins par deux fois, puisque c'est les deux grands moments de fondation du cartésianisme. Les deux grands moments de fondation du cartésianisme sont des moments précisément où on échappe à la rationalité, où la rationalité elle-même demande à être fondée. Donc c'est
Et ce sont les deux moments que vous avez choisis et qu'on va entendre.
C'est un peu les deux moments que j'ai choisis. Alors, il y a d'autres endroits du texte qui parlent aussi de ce moment-là, d'échapper hors du cheminement rationnel. Et donc, chez lui, on a la raison, la folie, côte à côte. On a la grande rationalité et une forme de... Alors, comment le nommer, je ne sais pas, parce qu'on verra que c'est pas si simple, mais ce qui transcende cette rationalité, donc ce qui n'est pas la rationalité. On a évidemment la subjectivité qui se fonde et qui fonde une nouvelle forme d'appréhension du vrai, puisque c'est l'évidence. Mais à côté de ça, le sujet est immédiatement démis de sa souveraineté par l'existence de Dieu. Et donc, on a chez lui des contraires qui, pour moi, et c'est ça qui fait d'ailleurs qu'il y a eu plein d'interprétations différentes de Descartes et qu'on peut être cartésien en s'entendant pas du tout, en fonction du Descartes qu'on choisit. Mais ce que je trouve génial et difficile à faire, c'est de garder Descartes tel quel, c'est-à-dire un philosophe où il peut y avoir des paradoxes, mais où il faut surtout pas les résoudre. Et en fait, c'est dans cette non-résolution du paradoxe que, pour moi, il y a la grande beauté de sa philosophie.
Tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent pour le plus vrai et assuré, je l'ai appris des sens ou par les sens. Or, j'ai quelquefois éprouvé que ces sens étaient trompeurs, et il est de la prudence de ne se fier jamais entièrement à ceux qui nous ont une fois trompés. Mais encore que les sens nous trompent quelquefois, touchant les choses peu sensibles et fort éloignées, il s'en rencontre peut-être beaucoup d'autres, desquels on ne peut pas raisonnablement douter, quoique nous les connaissions par leurs moyens. Par exemple, que je sois ici, assis auprès du feu, vêtu d'une robe de chambre, ayant ce papier entre les mains, et autre chose de cette nature. Et comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps-ci soient à moi, si ce n'est peut-être que je me compare à ces insensés de qui le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile, qu'ils assurent constamment qu'ils sont des rois, lorsqu'ils sont très pauvres, qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre lorsqu'ils sont tout nus, ou s'imaginent être des cruches ou avoir un corps de verre. Mais quoi ? Ce sont des fous ! Et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples.
Extrait de la première méditation des méditations métaphysiques de Descartes, lue par Nicolas Berger. Et on peut le saluer parce que la lecture à voix haute de Descartes, c'est pas si facile que ça, Mazarine Pinjot. D'ailleurs, même pas seulement à voix haute, hein, pour les avoir lus en entier de bout en bout ce week-end, il y a quand même une difficulté. Parfois à savoir où on en est, à qui il s'adresse, à quel endroit du raisonnement on en est.
Oui, parce que c'est à la fois très dense... Et en même temps, bon, c'est censé suivre quand même un ordre extraordinairement logique. Il doit épuiser chaque matière entre chaque méditation. Et en même temps, il y a des petits décrochages, comme par exemple ce texte-là, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a quand même fâché Foucault et Derrida sur cette interprétation de « mais quoi, ce sont des fous ?» où ils ont écrit des articles se répondant l'un l'autre pour dire... En fait, Descartes n'est pas capable, enfin, ne supporte pas la folie. Il la met, enfin, c'est ça, c'est Foucault. Il la met de côté dès le départ, parce que sinon, il pourrait pas mener son expérimentation. Et Derrida dit, non, c'est pas vrai. La folie, on la rencontre vraiment plus tard. Et bon, moi, je suis plutôt d'accord avec Derrida pour dire qu'en réalité, avec Descartes, on va jusqu'au bout de la folie. Et là, mais quoi, ce sont des fous. C'est presque pédagogique pour amener le lecteur à dire, bon, on va pas tout de suite douter vraiment de tout. On va y aller progressivement, pas à pas, mais en réalité, la réalité, c'est qu'on va quand même douter vraiment de tout. Et si on fait l'exercice pour de vrai, y a de quoi vaciller quand même.
Alors voilà, je voulais en venir à ça avec vous, Mazarine Pinjot. Vous avez fait le choix de cet extrait. Cet extrait, on est donc au tout début des méditations métaphysiques. Descartes veut nous dire quoi à ce moment-là ? Et la chose à laquelle je veux venir, c'est que l'expérience qu'il nous invite à faire, elle est horrible. C'est-à-dire que il nous pousse à faire l'expérience d'une crise d'angoisse dans laquelle tous les repères pourraient vaciller. C'est-à-dire ce moment où même on peut ressentir un certain morcellement du corps, une forme d'évaporation de soi, se demander s'il fait bien jour, si on respire bien et s'écouter respirer au point d'en devenir fou. Pourquoi avoir choisi ce texte qui nous met quand même dans un état de malaise?
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affects d'angoisse qui peuvent affluer lorsqu'on médite, tout simplement. Parce que, alors c'est une méditation particulière, parce qu'elle est quand même conduite par la méthode. On commence quand même d'abord par douter de ses sens, enfin des perceptions sensibles. Ensuite, on va douter d'un certain nombre de choses, de la réalité dans son entièreté, et y compris des mathématiques. Alors ça, c'est la petite différence entre les méditations métaphysiques petites, enfin, qui en réalité étaient normes, hein, et le discours de la méthode, c'est que les méditations métaphysiques vont plus loin que le discours, parce que non seulement...
Le discours de la méthode qui était paru 4 ans avant, voilà, alors que les méditations métaphysiques, c'est 1641.
Exactement, il s'est dit... Revient quand même sur la même chose. Il revient sur le travail en disant « je ne suis pas allé jusqu'au bout avec le discours de la méthode ». Il y a quelque chose qui manquait, et en fait, ce quelque chose qui manquait, c'était précisément dans le doute, enfin dans les objets du doute. Dans le discours de la méthode, il avait mis effectivement en doute l'ensemble du réel, et donc ça, c'est vertigineux. Mais on fait parfois cette expérience où tout se déréalise, où on se dit « mais... »
Mais ce n'est pas une expérience agréable.
Ce n'est pas agréable, mais... Mais il faut la faire. Enfin, voilà, la pensée philosophique, c'est pas agréable. Alors, ça peut parfois, ça donne lieu à des grandes joies, à des moments d'épanouissement de fulgurance très intense. Mais c'est pas agréable. C'est difficile. Mais je pense qu'on peut aimer ça, la difficulté aussi. On peut aimer l'âpreté. On peut aimer ce qui se conquiert. Un texte de philosophie, ça se conquiert. C'est jamais accessible de prime abord. Et donc, oui, cette expérience de la déréalisation généralisée de tout, il faut la faire pour voir ce qu'il demeure. Et dans le discours, il l'a fait, mais dans les méditations, il va encore plus loin. Pourquoi est-ce qu'il va plus loin? Parce que ce qu'il arrive à remettre en doute, et c'est ça, c'est hyper difficile, c'est les mathématiques elles-mêmes, c'est-à-dire la rationalité. Et c'est vrai que c'est difficile d'arriver à douter que 2 et 2 fassent 4, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut un effort, il faut se forcer un petit peu. Ça va pas de soi d'arriver à douter que, une montagne s'accompagne d'une vallée. Enfin, tout ce qui constitue la logique et en fait qui constitue les repères de notre monde. Au-delà même de l'idée que est-ce qu'on rêve ou pas, il y a cette idée de peut-être qu'en fait il n'y a pas de rationalité, que c'est juste une vue de notre esprit. Et d'une certaine
et
manière,
Kant
ira dans ce sens-là plus tard. Enfin, la critique, c'est un peu ça. Enfin, en tout cas, on va dans ce sillon-là. Et donc, arriver à douter pour de vrai que 2 et 2 font 4, ça exige une hypothèse, et c'est ça qui est fou dans les méditations métaphysiques, une hypothèse métaphysique qui est celle d'un dieu trompeur. Et là, on rentre dans quelque chose de complètement dingue, qui est peut-être... qu'il y a quelque chose qui pense à notre place à l'intérieur de nous.
Mais là, on passe de l'angoisse à la paranoïa.
Bah ouais. Mais en même temps, quelle preuve on a que ce ne soit pas vrai? Enfin, comment arriver? Et en réalité, c'est ça qui est génial aussi avec Descartes. C'est que, au fond, comment arriver à sortir de ce qu'il nous dit? C'est-à-dire, comment arriver à savoir qu'effectivement, en dehors de nous, il y a des choses qui existent, y compris des êtres humains? Et comment arriver à être certain qu'en nous, c'est pas autre chose qui pense à notre place. Enfin, c'est vertigineux, mais c'est une vraie hypothèse. Enfin, je veux dire, elle est hyper sérieuse. Et peut-être qu'en effet, c'est autre chose en nous qui pense. Peut-être d'ailleurs que c'est notre inconscient. Peut-être un certain nombre après de philosophes.
Oui, où on peut virer sur le complotisme, alors, ou sur un scénario à la The Truman Show, où quelqu'un tirerait les ficelles.
Absolument. Et donc, moi, je trouve ça génial de prendre très au sérieux
cette hypothèse
qui est possible, après tout.
Mais le problème de cette hypothèse, c'est que Descartes nous enjoint à la faire tout en ne tombant pas dans la folie. C'est la fin du texte, et c'est ce que vous avez tout de suite évoqué, Mazarine Pinjot, en convoquant Derrida et Foucault. La vraie question, c'est de quoi puis-je douter sans devenir fou? Or là, en fait, on voit bien que, en fait, l'expérience qu'il nous propose, elle est un peu paradoxale. On pourra jamais complètement... Moi, je veux bien douter de tout, mais je pourrais jamais aller jusqu'au bout de cette déréalisation qu'il propose.
Alors, d'abord, c'est une expérience qui est quand même conduite rationnellement, puisqu'elle est méthodique.
Voilà. Donc, déjà, c'est une folie rationnelle, méthodique.
C'est une expérience qui est encadrée. C'est une expérimentation à l'époque. Hein, c'est la grande découverte de Galilée. C'est la science expérimentale. On pourrait dire que c'est une expérimentation métaphysique. Donc, c'est quand même une expérience encadrée, comme le serait une expérimentation en sciences physiques. Voilà. Donc,
y a comme Michaud qui prend des drogues à l'hôpital.
Voilà. D'une certaine manière, il y a quand même un cadre. Ce qui l'autorise à le faire. Bon, et puis quand même, il va finir par s'apercevoir qu'il y a quand même quelque chose qui résiste, quoi. Qui résiste à cette déréalisation généralisée, à cette folie. Ce qui résiste, c'est que je suis.
Là, on l'a pas dans le texte.
Alors, on l'a pas dans le texte.
Donc, qu'est-ce qui reste quand on doute tout le temps? On a l'impression que c'est un argument ultra connu, mais finalement, si on en a fait l'expérience volontairement, avec méthode comme Descartes, ou malgré soi, en pleine crise d'angoisse, dirons-nous, ou mauvais trip, qu'est-ce qui reste pour nous rassurer?
En fait, il y a une bonne et une mauvaise réponse, ou plutôt il y a une réponse rassurante et l'autre qui ne l'est pas du tout. Il reste que je suis. Mais sauf que je ne sais pas du tout qui je suis. Tout ça ne m'apprend absolument pas qui je suis. Et donc, quand on a l'interprétation cartésienne d'un jeu qui serait transparent en soi-même, c'est faux. Enfin, je veux dire, le jeu, il est rien. Il est juste une présence au monde. Je suis, ça veut dire que je sais que je suis. Enfin, voilà, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que je sais qui je suis. La preuve, dans la troisième méditation, il va passer en revue toutes les idées que j'ai pour essayer de savoir est-ce que je peux en apprendre un tout petit peu plus et sur moi-même et sur éventuellement autre chose, s'il existe autre chose. Donc, à la fois, je suis présent au monde. Donc, cette présence-là, elle est quand même essentielle. C'est ça qui constitue le début de tout. C'est notre présence au monde et une présence réflexive. C'est-à-dire que je sais que je suis. Mais ensuite, on n'en a pas fini une fois qu'on
voilà,
a dit
de
ça.
Voilà, de quoi on est fait. Et d'ailleurs, ce texte le dit bien, Mazarine Pinjot, enfin en tout cas, laisse planer ce doute-là, si je puis dire ça. Il dit « que je sois ici assis auprès du feu » et après il dit « ses mains et ce corps soient à moi ». Et on voit bien déjà en fait que dire « je » et le « moi », c'est déjà une forme d'écart. Et on voit arriver effectivement la différence entre avoir un corps et le fait d'être une chose qui pense. Là, ça va être la suite du texte, j'anticipe,
oui,
mais c'est ça.
Absolument. Ça, ce qui est sûr, c'est que le « je » n'est certainement pas le corps, puisque c'est la première chose qu'ils mettent en doute. Tout ce qui relève de la perception sensible, c'est ce qui est évacué en premier, de manière très classique. Hein, l'essence nous trompe, donc on va décider de manière aussi un petit peu volontariste, parce qu'on conduit encore une fois une expérimentation, que tout ce qui nous viendra du corps est faux, en tout cas pendant le temps de l'expérimentation, parce qu'après on va le retrouver, le corps, évidemment. C'est pas du tout Descartes, c'est pas du tout le mépris du corps. Absolument pas. Il y a un texte qui s'appelle Les Passions de l'âme, où au contraire, il montre les liens entre le corps et l'âme, etc. Bon, tout ça pour dire que néanmoins, le jeu qui subsiste, c'est la pensée, ça c'est sûr. C'est pas le corps. Le jeu qui subsiste, c'est la pensée, mais c'est la pensée sans contenu. C'est juste je. C'est juste je suis là.
Mais c'est même pas je, une identité ou une forme de
c'est rien.
Ou l'âme.
Alors
quelque
après,
chose de soi.
Alors là, on rentre dans des interprétations.
Parce que quand on dit « je », là, ok, c'est un jeu impersonnel, ce qui permet aussi d'universaliser l'expérience,
exactement,
de l'ouvrir à tous. C'est aussi le jeu dont on a peur dans les sciences humaines ou les sciences sociales, surtout ne pas employer « je », même si ça change. Mais là, le jeu qu'il emploie, il est très large. Mais en fait, nous, quand on dit « je », c'est quelque chose qui nous engage, qui nous implique.
Alors ce jeu-là, pour l'instant, il n'est rien. Surtout qu'on est à la deuxième méditation et qu'on a encore plein de choses à découvrir. Là, il revient sur le fondement, enfin sur ce à partir de quoi on peut rebâtir l'édifice des sciences. Donc tout ce travail de doute méthodique, forcément, évacue tout ce qui est de l'ordre du vivant, du social. Après, ça va revenir. Mais dans l'expérimentation radicale qu'il fait, c'est autant de couches qu'il met de côté pour essayer de voir si en continuant à s'enfoncer dans cet abîme, on arrive à toucher la terre ferme, quoi. Il y a trouvé un point d'appui. Bon, ce point d'appui, c'est ce jeu, cette énonciation. Je suis. Après, en effet, on va pouvoir lui donner différents types de définitions. Lui-même en donne deux. Il y a un jeu qui sera plus épistémologique, c'est-à-dire un jeu, le jeu, une raison, je suis une chose qui pense, c'est-à-dire une raison, un entendement. Et puis, il y a un jeu qui est celui, moi, qui m'intéresse, qui est je suis une chose qui pense, c'est-à-dire qui veut, qui désire, qui... bon, etc., etc. Et qui sent.
Et là, ça pose problème.
Et qui sent. Mmh. Alors, on dit, bah, si hein, le je pense, c'est celui qui sent, ça veut dire quoi, ce truc bizarre?
Oui, est-ce que je suis dissociée? Est-ce que le jeu est double? Est-ce que le jeu est autre?
Et en réalité, à mon sens, chez Descartes, c'est que ce jeu, c'est juste une présence à soi. C'est tout. C'est juste une présence à soi. C'est, je me sens exister. C'est tout. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas quel est le monde. Mais en tout cas, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que je me sens exister.
Et pour revenir juste sur les dernières lignes, Mazarine Pangeot, sur la folie, un fou peut dire je.
Alors voilà. Moi, je pense que oui. Mais là, ça ouvre un champ immense de controverses, puisqu'il sera extrêmement attaqué précisément sur ce point-là.
Déjà dans son temps.
Alors, moins...
Non,
moins,
c'est plus Dieu qui pose problème.
Oui, oui, ça sera quand même surtout sur les questions... bon, il sera attaqué un peu sur tout, hein, mais la question de la folie, ça sera quand même beaucoup, y compris des neuroscientifiques qui vont l'attaquer. Mmh. Et aujourd'hui, il y a toute une série d'attaques un peu néo-positivistes sur, mais enfin, la dissociation, la schizophrénie, etc., etc., ça rentre pas dans ce truc-là, quoi.
Or, vous, si on suit votre résolution et votre définition du jeu, vous essayez de rassembler ces deux jeux différents, le raison, entendement, et de l'autre côté, le sentir, la sensation, la volonté. Si on dit que le jeu est seulement une présence à soi, ça peut marcher à ce moment-là.
Moi, je pense que ça peut marcher, mais là encore, ça reste ouvert à l'interprétation. Mmh. Et je dois dire que je ne peux pas l'affirmer définitivement. Il n'y a pas de toute façon une vérité absolue de Descartes. Hein. C'est ouvert à toute forme d'interprétation. Mais c'est vrai que la seule question, moi, qui me pose problème par rapport à la folie, c'est la question de la temporalité. Est-ce qu'il y a une forme de présence à soi continue dans le temps? Et c'est peut-être ça que la folie remet en cause. Mmh. Est-ce qu'il y a une forme d'identité au sens faible du terme? Juste en tant que je me continue à moi-même dans le temps, c'est-à-dire que je suis toujours je pense être toujours plus ou moins la même personne dans le temps. Et ça va quand même ouvrir à des controverses dès son époque, puisque Locke va dire l'identité humaine, c'est la mémoire, c'est-à-dire je suis ce dont je me souviens, et si je suis Alzheimer, je ne suis pas une personne, enfin je suis plusieurs personnes, mais la continuité à moi-même dans le temps, elle est rendue possible par la mémoire. Et donc moi, une des questions que je me pose par rapport à Descartes, c'est comment ce jeu peut-il assurer une continuité à soi-même? Et ça, chez lui, il n'y a pas de réponse, enfin il y a une réponse, mais elle est extérieure au jeu. Elle est Dieu. Elle est Dieu à travers l'idée de la création continue. Mais pourquoi je trouve que c'est génial cette idée de la création continue qui finalement garantit la continuité à soi-même dans le temps? Eh ben, ça rend possible d'une certaine manière l'idée que tout à coup peut surgir quelque chose de radicalement nouveau et que je ne suis pas intégralement déterminée par ce que je suis, quoi.
On va écouter justement un autre extrait des méditations métaphysiques, Mazarine Pangeot. Il s'agit d'un extrait de la troisième méditation.
Pour ce qui regarde mes parents, desquels il semble que je tire ma naissance, encore que tout ce que j'en ai jamais pu croire soit véritable, cela ne fait pas toutefois que ce soit eux qui me conservent, ni qui m'aient fait et produit en tant que je suis une chose qui pense, puisqu'ils ont seulement mis quelques dispositions dans cette matière en laquelle je juge que moi, c'est-à-dire mon esprit, lequel seul je prends maintenant pour moi-même, se trouve enfermé. Et partant, il ne peut y avoir ici à leur égard aucune difficulté, mais il faut nécessairement conclure que de cela seul que j'existe, et que l'idée d'un être souverainement parfait, c'est-à-dire de Dieu, est en moi, l'existence de Dieu est très évidemment démontrée. Il me reste seulement à examiner de quelle façon j'ai acquis cette idée. Car je ne l'ai pas reçue par les sens, et jamais elle ne s'est offerte à moi contre mon attente, ainsi que le font les idées des choses sensibles, lorsque ces choses se présentent ou semblent se présenter aux organes extérieurs de mes sens. Elle n'est pas aussi une pure production ou fiction de mon esprit, car il n'est pas en mon pouvoir d'y diminuer ni d'y ajouter aucune chose. Et par conséquent, il ne reste plus autre chose à dire, sinon que, comme l'idée de moi-même, elle est née et produite avec moi, dès lors que j'ai été créé.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait de la troisième méditation des méditations métaphysiques de Descartes, toujours lu par Nicolas Berger, avec cette idée, Mazarine Pargeot, puisque vous avez décidé, choisi de nous parler de ce texte aujourd'hui. Voilà, cette idée que tout à coup, Dieu est en moi. Alors, on passe d'un sujet qui, tout à coup, a l'air quand même presque tout puissant. Il pense, il ne reste rien, mais quand même, il pense, qui est quand même énorme. Et là, en fait, tout à coup, Descartes nous dit, bon, on va quand même se calmer. En fait, il y a Dieu quand même dans l'histoire.
Oui, c'est ça qui est extraordinaire et aussi ça qu'on oublie beaucoup aujourd'hui quand on parle de Descartes.
Oui, on a gardé que le jeu, en fait, tout puissant.
On a gardé un jeu tout puissant, un dualisme, un mépris du vivant, etc., etc. Or, c'est pas du tout ça, vraiment pas du tout ça, c'est même presque l'inverse. C'est que le jeu advient dans la deuxième méditation, donc effectivement, il ne reste que ça une fois qu'on a tout mis en doute. Et puis, on se rend compte, chemin faisant, qu'en réalité, ce jeu, dont on a pu penser qu'il était souverain, est totalement destitué de son piédestal, puisque en réalité, il ne tient pas sa propre existence de lui-même.
Ni de ses parents, d'ailleurs.
Oh, hein. Alors ça, c'est super intéressant, on va y revenir, mais ça veut dire qu'il n'est pas souverain. Souverain, c'est détenir sa puissance à partir de soi-même. C'est ça, la souveraineté. Il n'est donc pas souverain. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il est premier principe, il est destitué au profit d'un autre principe qu'il a créé. Ce qui veut dire qu'à la fois, il a une sorte de souveraineté, une forme de souveraineté, mais en même temps, il n'est pas du tout tout-puissant. Et donc, si on lisait plus la troisième méditation plutôt que la une et la deux. Oui, et puis que l'espèce de vulgate cartésienne comme ça, qui consiste à penser que c'est l'avènement du sujet. Certes, c'est l'avènement du sujet, mais c'est pas celui d'un sujet souverain et tout-puissant. Certainement pas. Cette toute-puissance, elle est immédiatement mise en cause au cœur même du même texte des méditations. Lors de la méditation, sans doute la plus importante, qui est la troisième méditation.
Elle est vraiment difficile en plus parce que quand même, franchement, pourquoi Descartes a eu besoin de Dieu à ce moment-là? Il a eu peur en fait que l'homme se prenne pour Dieu justement. C'était une manière de flatter aussi l'esprit de son siècle. Pourquoi il a eu besoin de transcendance?
Parce qu'en fait, tout ça suit un ordre extrêmement logique, c'est-à-dire que ça n'arrive pas de nulle part. Hein. C'est pas un Deus ex machina. Il arrive au sein de la méditation. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il découvre jeu. Mais sauf qu'il découvre jeu, tout a été mis en doute, tout est encore gelé à ce moment-là de la méditation. Donc jeu est là, mais il est tout seul. Il est tout seul, il sait qu'il existe, il sait qu'il pense, il sait qu'il pense à plein de trucs. Mais en revanche, il ne sait pas si tous ces trucs-là existent en dehors de lui. Donc c'est ce qu'on appelle le solipsisme, c'est-à-dire que je suis quand même enfermée en moi-même. Ce qui, d'une certaine manière, n'est pas faux. On est tous enfermés en soi-même. On a affaire à nos représentations du monde, mais nos représentations du monde ne sont pas le monde. Donc d'une certaine manière, il décrit une réalité que nous vivons tous, qui est nous sommes enfermés dans nos représentations, dans notre conscience. Et donc, à ce moment-là, il va se demander c'est quoi ces représentations? Regardons ce qu'il y a dans ces représentations du monde. Il appelle ça des idées. Donc, regardons ce qu'il y a dans ces représentations du monde. Et tout à coup, il tombe sur une idée qu'il ne peut pas avoir créée lui-même. Et ça, c'est génial aussi. Ça veut dire que, déjà, Descartes montre que je peux avoir des idées dont je ne suis pas l'auteur. Donc c'est formidable d'imaginer. Alors pour l'instant, il n'y a qu'un jeu. Le jeu semble tout puissant tout en étant quand même très affaibli parce qu'il est à la fois tout seul et en même temps, voilà. Et en même temps, il n'est pas le créateur de ses idées. Il n'est pas l'auteur de ses idées. Et donc, il y a des idées qui passent en lui. On est déjà chez Nietzsche, quoi. Ça pense. On est déjà chez Freud. Il y a des trucs qui me traversent l'esprit. Et puis, dans ces trucs qui me traversent l'esprit, il y a une idée qui est vraiment très étrange, qui est tellement folle et dingue que je ne peux même pas la penser. Et pourtant, elle est quand même là. Et donc là, il modélise quelque chose qui me semble être extraordinaire. Donc ça, c'est l'idée d'infini en moi. C'est qu'il modélise une idée grâce à laquelle je peux enfin sortir de moi. C'est la sortie du solipsisme. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je ne peux pas l'avoir créée, cette idée. Elle me déborde tellement, elle est tellement énorme, que je ne peux pas l'avoir créée.
Et cette idée, c'est Dieu.
Donc mais Dieu, on va l'appeler Dieu.
Voilà, c'est ça. Comment on pourrait l'appeler aujourd'hui?
On pourrait l'appeler autrement.
Voilà, quand on lit les méditations métaphysiques en 2025, Dieu, ça nous paraît... En fait, c'est presque la première chose qu'on aimerait détruire, en fait, comme type de croyance,
pour moi, Dieu... Alors,
comme type de fiction.
Alors là, c'est pas une fiction puisque c'est quelque chose de presque phénoménologique. Il observe les idées et il découvre cette chose-là qui le dépasse et qu'il n'a pas pu mettre en lui. À quoi ça pourrait faire penser ? Qu'est-ce que ça pourrait modéliser, cette idée qui
dépasse
et de sortie de soi ? D'une certaine manière, l'altérité, tout simplement. L'altérité de l'autre. L'altérité de l'autre, c'est ce qui me fait sortir de moi-même, que je ne peux pas avoir produit. C'est une rencontre, une idée que je ne peux pas avoir produit précisément parce que je la découvre, je la rencontre. Et donc, c'est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler l'altérité. Alors ensuite, il lui donne le nom de Dieu, mais... on pourrait le nommer autrement. Alors Dieu, après, il aura une autre utilité, mais mettons ça de côté d'une certaine façon. Et évidemment, chaque auteur appartient à son temps. Mais la manière dont il découvre ce qu'il appelle Dieu, puisque c'est une idée d'infini, or l'idée d'infini, bah, elle s'appelle Dieu, quoi, au XVIIe siècle, c'est comme ça, elle s'appelle Dieu. Mais même plus tard, quand Lévinas y reprend dans De Dieu qui vient à l'idée, la troisième méditation de Descartes, il dit, bah voilà, en fait, il y a ce truc-là qu'il décrit. Bon, il se trouve que ce truc-là, on l'appelle Dieu, parce que Dieu, la définition, c'est être tout-puissant, infini, etc.
Parfait, souverain.
Voilà, donc c'est tout, quoi, c'est le tout. Enfin, et bon, on peut l'appeler le tout. Spinoza l'appelle le Dieu, c'est le tout. C'est ça qu'il appelle Dieu. Mais en fait, d'une certaine manière, il va avoir un procès en athéisme. Donc, vous voyez, bon, on peut l'appeler Dieu. Bon, chez Descartes, c'est encore Dieu, parce que bon, on est quand même au XVIIe siècle, il discute avec des religieux, etc., etc. Bon, toujours est-il que ce qu'il modélise, on peut très bien l'utiliser sans nécessairement ni être croyant, ni faire appel, je sais pas, une vieille étiquette métaphysique qu'on appellerait Dieu. C'est tout à fait actuel, en réalité.
Vous avez cité le nom d'un philosophe. On va vous faire entendre sa voix.
Le savoir tel qu'il a été recherché, le savoir absolu tel qu'il a été recherché par la philosophie, tel qu'il était prêché ou promis ou recommandé par la philosophie, est une pensée de l'être qui est toujours la pensée de l'égal. Peut-être l'être fini que nous sommes ne peut pas, en fin de compte, achever la tâche du savoir, mais c'est en tout cas une tâche à travers laquelle ce qui est autre devient le même. Par contre, l'idée de l'infini n'est pas une pensée de l'égal. Et je pars de la notion cartésienne de l'idée de l'infini ou l'idée atome de cette idée, c'est-à-dire ce à quoi cette idée conduit, est pour Descartes infiniment plus grand que l'acte même par lequel on le pense. Dans ce que je dis du visage, le même dépassement de l'acte par ce à quoi elle mène, ses produits, et dans l'idée du visage, il y a l'accès à l'idée de Dieu.
10 mars 1981, la voix d'Emmanuel Lévinas, vous l'aviez reconnue, j'imagine, Mazarine Pargeot, vous l'avez citée. Alors effectivement, là, il fait clairement référence à Descartes et à cette idée d'infini, c'est-à-dire que l'homme est fini, mais il porte en lui la marque de l'infini qui pourrait prendre le nom de Dieu, on l'a dit, mais aussi, bah, avec Lévinas, le terme d'autrui, d'altérité.
Absolument. En fait, la grande problématique à partir de Descartes va être cette relation ou cette non-relation, cette relation de la non-relation, comme le dirait Lévinas, entre le fini et l'infini. Comment j'aborde l'infini, moi qui suis fini ? Donc, ce n'est pas à la fois une relation, puisque si l'infini ou l'absolu était en relation, bah, il deviendrait relatif. Donc, ça ne serait plus un absolu et ça ne serait plus un infini. Et en même temps, j'ai quand même une petite relation à cet infini, puisque bah, je le pense. Enfin, en tout cas, là, on en parle. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose. Et donc, c'est cette grande énigme d'une relation de la non-relation qui fait que je peux aussi dire que je ne peux pas tout penser. Je ne suis pas tout. Il y a quelque chose, il y a une brèche, il y a une ouverture dans la plénitude et la totalité de la pensée et de la connaissance qui est, bah, il y a quelque chose qui résistera toujours. Et ce quelque chose qui résistera toujours, ça, on peut l'appeler l'altérité, le visage. On peut l'appeler autrement aussi. Enfin, en tout cas, bon, c'est difficile de l'appeler parce que un nom va forcément le réifier d'une certaine manière.
Oui, ou le relativiser, c'est-à-dire que
voilà, c'est la difficulté.
Pourquoi l'autre serait transcendant, alors que effectivement Dieu, on peut ne pas aimer ce terme aujourd'hui, enfin c'est vrai qu'il fait un petit peu anachronique, mais il marque bien une idée de surplomb, de transcendance sur nous, de sortie de soi. Alors que si on parle d'altérité, nous sommes deux personnes différentes, vous êtes une altérité face à moi, Mazarine Pinjot, d'une certaine manière, vous n'êtes quand même pas transcendante par rapport à moi. Donc,
ça dépend, c'est-à-dire que l'autre, on peut très bien ne pas entrer dans cette rencontre. C'est possible, c'est-à-dire qu'on peut être des égaux, on peut être dans une communauté, je sais pas, de philosophes, ou une communauté tout simplement autour de, je sais pas, de la bonne nourriture. Enfin, voilà, il y a plein de manières d'être ensemble. Et puis, il y a quelque chose qui est quand même, alors c'est ce que Lévinas appelle lui l'altérité, qui est la rencontre avec un autrui, la responsabilité infinie devant l'autre. Mais effectivement, enfin, cette chose qui est inassimilable, irrécupérable, qu'on ne peut pas, enfin voilà, cette brèche, j'utilise le terme de Arendt parce que je trouve qu'il est très juste, mais cette ouverture, qu'on peut peut-être dire cette transcendance, mais bon, je fais toujours attention avec ce mot parce qu'il est hyper chargé, qui fait que je ne suis pas tout et ma pensée ne peut pas tout penser et il y a une autre dimension et il y a autre chose que du monde et il y a autre chose que ce que je peux connaître, eh bien ça, c'est ça la relation du fini à l'infini. Je ne peux rien en dire. Alors ensuite, je peux quand même dire, c'est l'amour. Je peux essayer de trouver des termes qui s'en approchent. Mais en même temps, c'est là. C'est là et ça met en échec ma souveraineté. Et en même temps, ça ouvre à une dimension assez extraordinaire et qui donne du sens aux choses. Je peux l'appeler aussi dignité, par exemple. Dignité, c'est pas quelque chose qui se démontre ou qui se prouve, qui est de l'ordre de la connaissance. C'est quelque chose d'autre, c'est une autre dimension. Donc voilà, cette idée d'infini en moi, en tout cas, a permis de modéliser ce genre d'expérience très forte et très difficile, en fait, à décrire. C'est ça qui est génial dans la troisième méditation, c'est que il arrive philosophiquement à décrire quelque chose qui n'est pas vraiment, enfin qui excède toute description possible, que la littérature parfois arrive à circonscrire, mais très difficilement, précisément parce que la langue elle-même récupère, réduit cette altérité, cette autre chose, cette autre dimension au sein d'une grammaire, enfin au sein d'une forme de connaissance, de ressaisie langagière.
Est-ce que c'est ce que vous pourriez appeler, Mazarine Pinjot, la différence? Vous écrivez ce texte qui vient de paraître, de l'indifférence à la différence. Est-ce que ça pourrait être aussi appelé la différence?
C'est exactement cette différence-là que j'essaye de construire en m'appuyant sur Descartes, en m'appuyant sur Lévinas, en m'appuyant aussi sur le travail d'une amie qui s'appelle Sophie Nordman, qui a beaucoup travaille beaucoup ensemble et qui a aussi beaucoup travaillé là-dessus. C'est très précisément cette idée d'une différence comme altérité que j'essaye de remettre un peu au jour parce qu'il me semble qu'on l'a perdu de vue. Donc c'est tout
en quoi c'est grave. En quoi ce serait grave de l'avoir perdu de vue, cette différence, et même cette idée, alors vous l'avez dit, transcendance, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas cette idée qu'il y a autre chose que nous-mêmes.
En quoi c'est grave? Eh bien, parce que pour moi, s'il n'y a pas cette différence, alors tout rentre dans le champ du commensurable. Tout est comparable, tout peut être évaluable.
Tout est relatif.
Tout est relatif, tout peut avoir un prix. Le marché, c'est ça. Et rien n'est sanctuarisable, rien ne peut sortir du champ du commensurable. Et pour moi, c'est en quelque sorte la fin de l'humanité, quoi. C'est la victoire du marché. Alors c'est un peu un raccourci, enfin c'est rapidement dit comme ça, mais c'est la conséquence ultime.
Alors d'ailleurs, dans la quatrième méditation métaphysique, j'ai repéré ce moment où Descartes parle d'indifférence, où il dit « cette indifférence que je sens lorsque je ne suis point emporté vers un côté plutôt que vers un autre par le poids d'aucune raison est le plus bas degré de la liberté et fait plutôt paraître un défaut dans la connaissance qu'une perfection dans la volonté. Car si je connaissais toujours clairement ce qui est vrai et ce qui est bon, je ne serais jamais en peine de délibérer quel jugement et quel choix je devrais faire et ainsi je serais entièrement libre sans jamais être indifférent. »
Alors là, on rentre encore dans une autre conception de l'indifférence qui n'est pas exactement celle que je travaille, parce que c'est là où je me sépare un petit peu de Descartes.
Ah, quand même, quelques nuances.
C'est là où lui-même, c'est ça qui est compliqué chez lui, c'est qu'il y a les deux possibilités. C'est-à-dire que là, en gros, il dit, si j'avais une connaissance du bien, je ferai le bien en gros. Enfin, là aussi, c'est un raccourci.
Je serais pas indifférent à faire telle ou telle chose, voilà. Mais je me déciderai
moi,
pour
il
le
me
bon
semble
choix.
Qu'il y a un moment du jugement et surtout de l'action qui n'est pas de l'ordre de la connaissance, qui est de l'ordre du choix, quoi, de l'arbitrage, et qui précisément n'est pas entièrement déterminé par la connaissance. Et d'une certaine manière, l'idée d'infini en moi, c'est ça que ça dit aussi. C'est que justement, tout n'étant pas de l'ordre de la connaissance, il ne peut pas y avoir une connaissance morale. Il ne peut pas y avoir un système moral qui soit de l'ordre de la connaissance. Et donc, il y a un lieu quand même ouvert à l'interrogation permanente. Donc, c'est pour ça que je m'arrête toujours... Enfin, je m'arrête toujours aux trois premières méditations. Disons que
je m'arrête à la fin de la troisième. Non, parce qu'il y en a six en tout, quand même, je précise.
Non, mais elles sont toutes les six merveilleuses, mais les trois plus grands moments de philosophie, ouais. Et qui résistent au temps, alors que dans les trois autres, c'est là où on peut trouver des choses qu'on pourrait
le dualisme,
discuter. Voilà. Dans les trois premières, je trouve que ça résiste à tout, quoi. Ça résiste à tout.
Dernière question sur Descartes, Mazarine Pinjot. Vous n'avez pas commenté juste très rapidement sur pour ceux qui regardent mes parents dans le
c'est
texte
vrai.
Qu'on a entendu.
Je trouve que ce texte, il est génial parce qu'il pose la question de savoir d'où on vient. Et d'emblée, il dit mais on vient pas de nos parents. Et rien que ça, je trouve que c'est génial parce que ça ouvre un
champ des possibles.
Mais bien sûr, parce que bien sûr qu'on vient de nos parents. Mais en même temps, le moment où on est à soi-même, c'est le moment de l'autonomie. C'est le moment où on arrête de penser comme les autres, où on arrête de penser de manière déterminée comme on nous a appris à penser. C'est le moment précisément où s'éveille une forme de conscience réflexive sans doute. C'est cette espèce de rupture qu'on rencontre parfois dans la vie par accident. Il se passe quelque chose et tout à coup on voit les choses différemment ou qu'on arrive à conquérir à force de le vouloir. Mais où on se rend compte que ce moment où on accède finalement à une pensée qui nous soit propre, c'est le moment où on considère qu'effectivement on n'est pas un produit, tout simplement. Pour être un sujet, on ne peut pas être un produit. Alors c'est toute la question de l'appartenance, de la non-appartenance. On appartient certes à une famille, à des origines, à un héritage, mais en même temps cet héritage, comme le dirait Derrida, il faut le contresigner. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où si on l'accepte, soit on l'accepte, soit on l'accepte pas, mais il y a un moment où il y a quand même un moment d'autonomie, ben, où on fait ce choix-là. Et ce moment d'autonomie, par définition, il peut pas devenir des parents. Et c'est là où il dit, ben, peut-être que ça vient d'où on vient, peut-être qu'on vient de Dieu. Donc, c'est ce que je trouve fort, et je reprends sur l'idée de la création continue, c'est que si on vient de Dieu, c'est-à-dire d'autre part, quoi, enfin, d'un autre, alors, il y a donc moins de déterminisme, alors il y a aussi la possibilité qu'on se réinvente d'une certaine manière, parce que dans la création continue, il n'y a pas de déterminisme, au sens où on n'est pas déterminé par le moment qui nous précédait. Et donc, si le temps n'est pas déterminé par le moment qui précède, alors il y a la possibilité d'une rupture, d'une ouverture, d'une effraction, et ça, je trouve que c'est vertigineux.
J'accepterai la douleur, d'accord aussi pour la peur. Je connais les conséquences, et tant pis pour les pleurs. J'accepte quoi qu'il en coûte, tout le pire du meilleur. Je prends les larmes et les doutes, et risque tous les malheurs. Tout n'est pas la différence. Pas le temps qui meurt et les jours qui se ressemblent sans saveur et sans couleur. Tout n'est pas la différence. J'apprendrai le froid des phrases, j'apprendrai le chaud des mots. Je jure de n'être plus sage, je promets d'être sourd. Tout m'est pas l'indifférence, tout m'est pas le temps qui meurt et les jours qui se
Cette chanson, Mazarine Panjot, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, qui vous accompagne, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Alors, j'ai choisi Gilles Deleuze.
Vous n'êtes pas la première.
Bah, il paraît. C'est drôle. C'est pas parce que je l'aime pas, je peux pas dire ça. C'est un auteur. Déjà, si je l'ai choisi, c'est que je le lis et que, même si j'ai pas tout lu de lui, du tout, hein, je suis vraiment loin d'être spécialiste. D'ailleurs, je pense que s'il y a des spécialistes qui m'entendent, ils vont hurler, parce que je vais dire n'importe quoi. Mais à la fois, il me résiste et à la fois, je suis jamais d'accord avec ce que je lis de lui. Mais en même temps, il est suffisamment fort pour que j'ai quand même envie de dialoguer avec lui. Ça me faisait parfois ça avec Nietzsche, que j'adore, enfin, qui est un auteur que j'adore, et c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ouvert, mais j'adore ne pas être d'accord aussi. Enfin, donc ça veut dire que c'est des grands auteurs. Enfin, donc je peux pas dire que c'est juste, enfin, d'ailleurs, je pense que quand on choisit un auteur,
c'est pas juste
pas,
du rejet,
voilà,
tout court.
C'est juste, en effet, c'est aussi une forme d'admiration, d'une certaine façon. Mais c'est vrai que je ne suis jamais d'accord avec lui. Alors évidemment, moi, je cherche cette structure de, on va dire, oui, de différence, on l'a dit tout à l'heure, de transcendance, encore une fois, avec plein de guillemets, parce que le mot de transcendance est trop chargé, il est tout de suite réifié en une figure, en un dieu, etc., ce qui n'est pas du tout le travail que je mène. Moi, c'est juste une dimension de brèche, c'est juste ça, une effraction. Autre chose, dans mon travail précédent, je l'avais appelé le manque, le sang, enfin, le négatif. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le négatif, et chez Gilles Deleuze, le négatif est là en permanence pour travailler de l'intérieur les transformations, les métamorphoses, les différences, justement, dans la répétition. Mais c'est un négatif qui n'est jamais vraiment un négatif, c'est-à-dire que il se dissout toujours, il est toujours positif. C'est un négatif qui est toujours positif. Et moi, j'aime les philosophes de la finitude, c'est-à-dire qui acceptent le négatif, qui acceptent qu'il y ait du tragique.
Il n'est pas assez tragique.
Non. Pourtant, c'est un philosophe qui s'intéresse à la mort en permanence, mais tout est toujours possible, je sais pas, tout est toujours récupéré. Alors en plus, c'est l'anti-philosophe de la transcendance par définition, hein, puisqu'il ne pense que les champs d'immanence, etc.
Mais voilà, il y a son concept avec Félix Guattari, vous le citez hein, d'ailleurs dans l'introduction de votre livre de l'indifférence à la différence. Dans Qu'est-ce que la philosophie ? Il y a vraiment la création de ce concept de champ d'immanence. Voilà, on est sur un plan d'immanence. En permanence, si je puis dire.
En permanence, avec la figure du rhizome qui est cette idée que la différence précède la répétition, puisqu'il a quand même écrit tout un livre sur la différence. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que cette notion de différence, tous les grands auteurs du XXe siècle l'ont travaillé. Que ce soit Heidegger avec la différence ontologique, que ce soit Derrida avec l'écriture ou la différence, que ce soit Lévinas, on l'a cité tout à l'heure, on l'a entendu, ou que ce soit Deleuze qui écrit différence et répétition. C'est quand même symptomatique que la notion de différence soit au cœur de toutes ses œuvres, alors que personne n'est d'accord pour s'entendre sur ce que veut dire différence. Bon, chez Deleuze, on est un petit peu dans le geste nietzschéen de la différence intraphénoménologique, c'est-à-dire c'est du jeu, quoi. Mais c'est jamais du négatif.
C'est du jeu, J-E-U.
J-E-U, oui.
Cette fois.
Ah oui, bien sûr. Mais c'est jamais quelque chose qui tranche, c'est jamais le négatif au sens où on ne peut, il est indépassable. Et donc, moi, ce sont des philosophies que je trouve d'abord très dogmatiques, en réalité, sous découvert d'être hyper ouvertes elles attirent beaucoup, hein. Elles sont très, très romantiques pour un certain nombre d'étudiants de philosophie. Mais en réalité, j'y vois une forme de complicité avec ce dont on parlait tout à l'heure, une certaine économie de marché. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration là, en deux temps,
trois moments. Plus le temps de passer.
Mais ça me pose quand même un sérieux problème. Et voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai du mal avec Deleuze, et aussi parce que je trouve que c'est hyper difficile à lire. Et pourtant, j'aime les textes difficiles à lire, parce que quand on fait de la philosophie, on est obligé d'aimer à peu près ça, sinon on est vraiment masochiste. Mais là, je trouve que c'est de la difficulté pour rien, et ça m'agace.
Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Mazarine Panjot. De vous, on peut lire De l'indifférence à la différence, paru aux éditions PUF, Les enfants et les fous, Descartes et ses lectures contemporaines aux éditions Classique Garnier. Et je cite aussi Vivre sans une philosophie du manque aux éditions Flammarion. Pour lire Les méditations métaphysiques de Descartes, c'est aux éditions GF, Garnier Flammarion, entre autres éditions. Et un grand merci à Manon Delasselle et Corinne Amar, à Nicolas Berger à la réalisation, à Anthony Thomasson à la prise de son. Toutes les émissions du Souffle de la Pensée sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.